le tronc, ce qui me forge. En botanique, un tronc est la partie principale de la tige simple d'un arbre ou d'un arbuste. Généralement vertical et sans ramification sur une hauteur importante, situé entre la racine et le houppier, supporté par les branches maîtresses. Le tronc est constitué de deux parties, le bois, tissu ligneux, au centre, et l'écorce en périphérie. Le tronc occupe la même fonction que les branches, mais les relie aux racines. Pour dessiner ou imaginer notre tronc, nous allons faire un travail d'affirmation de soi et déterminer ce qui nous centre et ce qui nous protège. Mon centre intérieur. En édifiant notre tronc, nous allons travailler sur ce qui nous centre et nous rend stable. Cela vaut le coup de se demander quels sont les moments où l'on se sent en confiance, inébranlable, sûr de soi. Comment cela se manifeste? Dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Combien de temps cela dure? Quelles sont les circonstances dans lesquelles je goûtais ces sensations? Pour se sentir plus stable, il est ainsi intéressant de se demander où se trouve le centre de soi-même. Cela revient à se demander d'où ça vient quand je dis « je ». Est-ce du cœur, de la tête, du plexus solaire? Cette question permet de se positionner par rapport à son identification et à sa relation à son corps. Amusez-vous ensuite à déplacer ce centre de vous-même vers d'autres parties du corps et voir ce que ça change comme perspective en vous. Et puis, remettez ce centre à sa place idéale. Où il était au début de l'exercice, ou à un endroit un peu plus confortable. Cela est très instructif de voir le pouvoir que nous avons, par certaines visualisations, qui nous permettent ainsi de changer nos perceptions du monde extérieur, et de notre propre univers interne. Vous pouvez même vous amuser à faire cela lors d'une promenade en forêt, par exemple. Votre centre bouge-t-il à chaque pas déroulé? Descend-il un peu plus vers vos jambes qui avancent, ou, au contraire, monte-t-il un peu plus vers votre cœur, qui s'ouvre sur le monde extérieur? Proverbe africain. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Mon écorce. Mais sans écorce, le tronc est à vif et à la merci de la nature. L'écorce est la peau de protection de l'arbre. Ce manteau, épais de quelques millimètres à plusieurs centimètres selon les espèces, est vital. Il a pour rôle de protéger la sève qui circule juste derrière et le bois tendre, qui est la partie vivante de l'arbre. Elle est issue de la croissance secondaire de la plante et n'est par conséquent pas présente sur les jeunes arbres. L'écorce de notre arbre de vie est l'enveloppe qui protège notre essence, nos valeurs et nos passions. Alors, évertuons-nous de la construire sur le concept de l'antifragilité, comme une carapace solide qui se renforcerait face à tous les assauts de la vie et de la nature. Le concept d'antifragilité a été défini par l'auteur Nassim Nicholas Taleb dans son livre « Antifragile, les bienfaits du désordre ». Dans la présentation du livre, on peut lire que l'auteur fonde son ouvrage sur combien les cataclysmes de notre temps fondent un homme, une culture, une civilisation, et peuvent être ainsi une source de bienfaits. Voici le concept de l'antifragilité. L'antifragilité est au-delà de la résilience et de la robustesse. Le résilient résiste au choc et reste le même. L'antifragile s'améliore. Ainsi, quelque chose qui est antifragile va s'améliorer au fil du temps, du stress, des contraintes, à la différence de quelque chose de fragile qui se brisera au moindre choc. Selon Wikipédia, en d'autres termes, la différence entre fragile et adaptatif se caractérise comme suit. Un système antifragile s'améliore dans un environnement instable, tandis qu'un système adaptatif est robuste dans un environnement initialement inconnu. Ce concept a aussi été repris par Tom Bilyeu, podcasteur américain, en proposant de se construire une identité antifragile. Cela afin que les difficultés soient une façon de nous rendre plus forts. À cette fin, il suggère de ne pas mettre son ego dans une identité binaire, qui pourrait être blessée ou brisée si on ne l'atteint pas. Par exemple, ne pas s'attacher à être intelligent, mais plutôt à être en constant apprentissage. Définir son identité comme quelqu'un qui apprend en permanence, plutôt que comme quelqu'un qui sait. Ainsi, nous ne redoutons plus les erreurs. Au contraire, ce qui nous semble de prime abord être des défaites ou des mauvais choix est une façon de forger son écorce. Tout cela permet de devenir plus fort, en apprenant de celle-ci et de celles que les autres ont commises. Toujours dans le livre « Antifragile », Nassim Nicholas Taleb lance cette phrase « Ce qui ne nous nuit pas rend les autres plus forts ». Derrière cela, il émet la thèse que les erreurs profitent à tous. Le fait de se tromper permet de construire un système plus antifragile, plus résilient, et qui se renforcera peu à peu des contraintes subies. À grande échelle. Dans l'industrie, par exemple, dans l'aéronautique, les avions qui s'écrasent permettent de construire des avions encore plus sûrs. Je travaille dans la sûreté de fonctionnement dans le ferroviaire, et c'est la même chose. Chaque défaillance d'un système, chaque accident remonté, est une façon de se pencher sur un nouveau design plus performant et d'ajouter de nouvelles barrières de sécurité. Dans la nature, lorsqu'un événement inattendu se poursuit, les individus non adaptés meurent. Ceux mieux adaptés génétiquement survivent et l'espèce évolue. La nature est un système antifragile, dans une certaine limite, et aussi parfois des espèces entières disparaissent. Comme à petite échelle, dans notre corps, des cellules peuvent être éliminées pour que notre organisme entier devienne plus fort. Quand nous jeûnons, le phénomène d'autophagie permet d'éliminer les cellules défectueuses. Petit à petit, ces faux pas se cristallisent et nous rendent plus antifragiles, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Nous apprenons de nos erreurs. Un autre exemple tiré du livre. Si le Titanic n'avait pas coulé, nous aurions vraisemblablement continué de construire des bateaux encore plus grands. Et lorsqu'un naufrage aurait eu lieu, le nombre de victimes aurait été bien plus élevé. Nous ne sommes pas immortels. Cela demanderait des facultés de préadaptation à tous les événements aléatoires, ce qui est impossible, justement par le fait qu'ils sont aléatoires. Par contre, en perdant une bataille, nous préparons la prochaine, en s'adaptant à un nouvel environnement, en nous renforçant, en développant de nouvelles compétences. Et nous allons commettre des erreurs. Mais réjouissons-nous-en. C'est une opportunité incroyable et nécessaire d'apprendre, de grandir. Voyons aussi les erreurs des autres, sous un autre angle. Là aussi, comme une façon d'apprendre collectivement. Alors, avancez sur votre chemin. Vos supposées erreurs ne seront que des informations apprises pour devenir plus expérimenté et aller encore plus loin. Reste bien sûr à s'assurer que ces faux pas ne nous soient pas fatals. Là encore, laissons les arbres porter nos espérances. Car si même Mathusalem a fini par mourir, l'arbre le plus vieux du monde est un sapin âgé de plus de 9500 ans. Son incroyable longévité s'explique par une capacité antifragile du sapin à se cloner lui-même. En effet, dès qu'une tige meurt, une nouvelle émerge du stock racinaire. Virgile. Je veux, caché dans les forêts, au milieu des repères des bêtes farouches, y souffrir seul et graver mes amours sur l'écorce des tendres arbres. Ils croîtront, vous croîtrez avec eux, mes amours. Ce qui me forge. Nos promenades lunaires demandent parfois un peu d'effort. Parfois le chemin monte et les muscles se crispent d'avoir à parcourir la pente. Le mental se décourage devant les difficultés à dépasser. Notre parcours a son lot de labeur, de foin à amasser, de sueur à perler. C'est alors que regarder dans le ciel, y voir la lune presque jaune paille, vous donnera du baume au cœur. Angela Duckworth, l'auteur du livre Grit, racontait que pour écrire son livre, elle s'était entretenue avec un grand champion de natation, pour comprendre comment tous les jours, il se levait aux aurores, enfilait son maillot de bain, les yeux encore embués de sommeil, et allait nager dans une eau bien plus fraîche que son lit bien douillet. Pourtant, tous les matins, c'était son programme. Sa passion pour son sport était si grande que se poser la question s'il fallait s'entraîner ou non n'était même pas une option. Angela Duckworth parlait de ces personnes qui voyaient au-delà des difficultés, et que ces difficultés devenaient même parfois un plaisir. Elle parlait aussi très modestement que cette voie n'était pas forcément facile à atteindre, et elle a mentionné un exemple très concret. Elle a deux filles de 19 ans et 17 ans. En tant que mère, il y a eu et il y aura des moments difficiles, où nos enfants nous épuisent, nous fatiguent, nous agacent. Mais cela ne nous empêche pas de les aimer, parfois même encore plus. On n'abandonne pas notre rôle de parent aux premiers accrocs, parce que l'on sait bien que malgré les disputes, les bouderies, les chamailleries, il y a quelque chose derrière notre relation, de bien plus grand, bien plus profond, et bien plus inébranlable que des inconforts momentanés. Alors, sachons apprécier les difficultés qui nous font grandir, qui nous apprennent à développer d'autres ressources, qui seront sur notre parcours certainement, à un moment ou un autre. Mais gardons espoir et continuons d'avancer. Tout cela est aussi une façon de se tester, de se dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle et que vos efforts seront récompensés. Tout simplement parce que vous êtes sur le chemin, peu importe où vous en êtes, et que ce sont ces muscles fatigués et ces têtes en ébullition qui vous prouvent que vous êtes en vie. Winston Churchill. Jamais, 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 n'abandonnez jamais. Le feu et Manipura. En construisant notre tronc d'un bois solide et entouré d'une écorce épaisse, nous avons accru notre résistance, notamment à l'élément auquel se rattache notre volonté et notre ego, le feu. Si les arbres entretiennent avec le feu une relation passionnelle et parfois mortelle, il existe une espèce d'arbre particulièrement résistante au feu de forêt, le chêne-liège. Lors d'un incendie, si toutes ses feuilles se consument, son écorce épaisse, isolante et peu combustible, ne brûle que superficiellement et arrête la progression de l'incendie. L'écorce du chêne-liège protège ainsi les tissus conducteurs de la sève et la cise génératrice de l'arbre. Après le passage du feu, même si le chêne-liège paraît entièrement calciné, des bourgeons dormants sous l'écorce se réveillent et donnent naissance à de nouvelles pousses. Environ 20 mois après l'incendie, l'arbre a retrouvé toute sa couronne végétale. Le feu est masculin, dans l'énergie solaire du yang. Il représente la purification, l'illumination, la joie. Dans l'astrologie, c'est l'élément des signes du bélier, du lion et du sagittaire. Le bélier représente l'énergie d'impulsion. C'est le feu vif après les premières étincelles. Le lion représente l'énergie de conservation, le feu stable et rassurant qui brûle avec constance dans la cheminée. Quant au sagittaire, son énergie est une énergie de distribution, le feu changeant dont les flammes vacillent et dansent dans tous les sens. Le feu représente la chaleur, l'énergie, la lumière. C'est aussi le feu intérieur spirituel, celui qui consume mais ne brûle pas afin de sublimer son âme. Il est associé à Manipura, le troisième chakra. Il est représenté par une fleur de lotus jaune à 12 pétales et tourne au niveau du plexus solaire. Selon la tradition du yoga, Manipura est un chakra charnière. Son feu va permettre de purifier les énergies des chakras inférieurs liés aux instincts, Muladhara, et au désir, Svadhisthana. Son bija mantra, le mantra Ram. Lors des respirations au yoga, dans le pranayama, on l'associe au mantra Ksham, la cendre. On propose ainsi d'inspirer avec le mantra Ram du feu et d'expirer sur le mantra Ksham de la cendre, dans un exercice de sublimation par le souffle. Le feu est un puissant élément purificateur, car il transforme le bois en cendre. Pour brûler d'une énergie nouvelle et se connecter à cet élément du feu, Agni de l'Inde, Rue de Chine ou bien Héphaïstos de la mythologie grecque, réalisez des activités comme faire mijoter un bon petit plat, brûler une bougie, allumer un brasero, prendre un bain de soleil, s'habiller de couleurs chaudes ou rire à gorge déployée. Borges. Le temps est un feu qui me dévore, mais je suis ce feu. Dessinez mon tronc. Il est maintenant temps de dessiner le tronc de notre arbre de vie. Pour cela, laissez s'agréger les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce qui me centre? Comment ai-je forgé mon écorce? Comment me suis-je construit? Le temps que les réponses à ces questions s'édifient en tronc, voici un recensement des différents types de troncs. Les monopodes. Ils sont constitués d'une tige principale, le tronc autour duquel est organisé le reste de la structure de l'arbre. Les troncs sans branches. Ils sont édifiés à partir d'un seul point de croissance. Leurs feuilles se développent fortement et peuvent donner l'illusion de branches. Elles procurent une grande surface d'alimentation pour l'arbre. Cependant, la mortalité du point de croissance se traduit inéluctablement par la mort du sujet. Le palmier est un exemple de cette catégorie. Les troncs dominants, comme les résineux. Leur tronc imposant domine tous les autres axes de croissance de l'arbre. Il y a une architecture suivie rigoureusement. Croissance au carré, une seule tête par ligne. Les feuillus. Si au départ un tronc est dominant, il arrive souvent au cours de la vie de l'arbre que les deux axes relais soient mis en place pour pallier les têtes. Les sympodes. Le point en croissance principal disparaît régulièrement au cours de la vie et des branches latérales se développent en concurrence au tronc d'origine. Les noyers appartiennent à cette catégorie. Leur semblable rectitude est trompeuse. La floraison met un terme au point de croissance principal. Et tous les ans, c'est un autre point de croissance qui vient prendre le relais. De façon plus évidente, les platanes de nos places de village sont aussi des sympodes. À quoi ressemble votre tronc? Possède-t-il un seul point de croissance ou plusieurs? S'élève-t-il droit vers le ciel? Ou s'amuse-t-il à prendre des détours et des formes insolites? Comment est l'écorce qui l'entoure? Fine comme un papyrus ou épaisse comme un livre épais? Laissez danser les crayons. Votre arbre commence à prendre vie. Paul Valéry. Je suis un être greffé. Je me suis fait à moi-même plusieurs greffes. Greffé des mathématiques sur de la poésie, de la rigueur sur des images libres, des idées claires sur un tronc superstitieux.